France Musique.
Musique et moi. Dorothée de Montfred.
Priscille Lafitte.
France Musique. Durant mes premiers mois de déviation, je n'ai jamais consciemment décidé de laisser l'aider prendre en charge l'ensemble de ma vie. Je ne cherchais pas à devenir un organisme dont les moindres actes seraient déterminés par l'aider. Cette idée m'eut alors effrayée. J'avais tendance à restreindre mes options de telle sorte que Lille et mes collègues ne se missent point à soupçonner que j'étais engagée dans une entreprise légèrement hétérodoxe. Je conservais mes fascinants cubes verts soigneusement cachés à tous les regards et les consultais subrepticement quand besoin était. Mais je découvris que je m'habituais rapidement à suivre les caprices sporadiques du dé. Je pouvais n'être guère satisfait de tel ordre particulier, mais tel un automate bien graissé, je m'exécutais.
Que se passerait-il si l'on jouait sa vie au hasard, si nos choix tenaient un lancer de dés? C'est un roman de Luke Reinhardt, dont vous nous avez offert un extrait, Dorothée de Monfred. Bienvenue à vous dans Musique et moi.
Merci.
Qu'aimez-vous dans ce roman, L'homme dés?
Alors c'est un livre qui est très particulier parce que il est présenté comme une autobiographie. En fait, c'est une fausse autobiographie et Luke Reinhardt, c'est un pseudonyme. Et ce que j'aime, c'est que ça nous raconte l'histoire d'un psychiatre qui se met à prendre toutes ses décisions au dé. Et en fait, ça va de plus en plus loin, comme on peut l'imaginer, et ça dérape. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est une manière pour moi de me rappeler que les choses pourraient être autrement. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de pas du tout comme ça. Enfin, je n'oserais jamais faire un truc pareil. Mais c'est une manière, quand je lis ça, de me dire, en fait, voilà, pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Et est-ce qu'on pourrait pas parfois faire un pas de côté?
De laisser le hasard ou le jeu s'inviter dans notre vie. Quel jeu est-ce que vous entendez dans ce concerto pour deux pianos de Francis Poulenc? Qu'on entendait ici le final, qui est facétieux, qui est drôle, qui joue de référence.
Alors j'entends à la fois un espèce de discours entre le classicisme et la modernité, et puis un dialogue entre les pianos et les autres instruments, où on change de règles du jeu toutes les deux mesures, et on a tout le temps des surprises, quoi.
Vous avez essayé, vous, de tenter une écriture au hasard ou...
Dans mon travail de dessin et d'écriture, pas tellement. Le seul livre pour lequel il y aurait peut-être une notion de jeu qui se rapprocherait de ça, ce serait Voyage au pays des gâteaux, qui est un petit roman que j'avais fait à l'école des loisirs il y a plusieurs années et que j'ai écrit à partir d'une image d'une carte postale de deux artistes qui s'appellent Plonk et Replonk. Et cette carte postale qui représentait une vue d'un pays imaginaire fait de gâteaux, cette carte était en fait le point final de mon histoire. Enfin, disons que je me suis servi de ça comme objectif de mon histoire.
Et c'était une carte trouvée par hasard?
C'est des cartes qu'on trouve dans les carteries actuellement qui sont super drôles et que j'aimais bien et qui m'évoquaient plein de choses, donc voilà, je me suis amusée à jouer avec.
On ne va pas jouer à la loterie ce matin avec la musique, quoique on va un petit peu choisir un répertoire qui joue avec les règles, comme vous avez dit. Dorothée de Monfred, vous êtes en notre compagnie ce matin, les cadeaux sont déballés, la fête va décrescendo et c'est le moment où les enfants se plongent dans un jeu ou dans des livres et pourquoi pas dans l'une de vos publications. La dernière, Mystère dans le grenier, est publiée par l'École des loisirs. Et puis, vous êtes aussi l'illustratrice de la série Des petits philosophes, grand succès de Bayard Édition. Et dans un tout autre registre, vous osez une tranche d'humour érotique, à la fois tendre et tordant dans les choses de l'amour. Et au fil de vos écritures, de vos dessins, on s'attache à vos personnages. Un chat qui réfléchit à la vie, un toutou en vadrouille, une famille de cochons dans un monde hyper connecté. Avec vous, les tracas des enfants et des adolescents s'apaisent, la légèreté et le sourire prennent le dessus. Nous sommes donc en bonne compagnie pour passer les fêtes, à l'heure des débats animés autour de la table, à l'heure où les enfants interrogent la vie avec curiosité et candeur. Nous allons entendre des musiques facétieuses, joueuses, qui ont la profondeur de l'enfance. Et commençons par l'une de vos découvertes récentes, un compositeur qui n'a pas tourné le dos à l'enfance, lui non plus, c'est l'ami que nous connaissons bien sur France Musique, Christophe Chassol.
Oh, yeah.
Rapport ludique à la musique, Christophe Chassol qui reprend des bribes de cours de récréation, qui les transforme en rengaine musicale. C'est une découverte récente pour vous, c'est ça ?
Chassol, ça fait quelques années que je suis son travail. Vraiment, j'adore. C'était bouleversant pour moi la première fois que je l'ai entendu. Donc, je suis allée le voir plusieurs fois en concert. Et là, l'extrait qu'on a entendu, c'est son album Ludi, qui est aussi visible sur scène. Et c'est absolument fantastique. Pour moi, c'est vraiment une découverte majeure de l'art contemporain du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à être à la fois hyper fort musicalement. Sur scène, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Et en plus, c'est drôle. Je vais vous dire, c'est un truc qui est en fait complètement. C'est une exploration autour de l'idée de jeu. Donc, il est parti de différentes définitions du jeu. Donc, il y a, je crois, le jeu de main, les jeux de hasard et les jeux de vertige. Et pour chacun de ces types de jeux, il a fait une partie musicale en allant d'abord filmer, alors soit dans une cour de récré pour les jeux de main, soit dans dans des montagnes russes pour les jeux de vertige, soit dans des jeux vidéo pour les jeux de hasard. Et il a fait des boucles vidéo avec du son. Ces boucles vidéo, il en extrait en fait les mélodies au piano et ensuite il les harmonise au piano-batterie. Alors, c'est un peu difficile à expliquer comme ça. Et ensuite, il joue ça sur scène. Donc, en fait, la vidéo est un musicien. Et lui, il est sur scène, là, avec nous, avec un batteur. Et donc, on a le batteur qui est là, le pianiste qui est là, et la vidéo qui joue avec eux. Et parfois, il y a même des musiciens qui s'invitent à l'intérieur de la vidéo, qui font une troisième couche, quoi. Et donc, il joue, il nous raconte ce que c'est que le jeu. D'un point de vue conceptuel, c'est hyper fort. Et en même temps, c'est drôle. Donc, franchement, je sais pas comment faire mieux, quoi. Et c'est très moderne, quoi.
Il y a un peu de collage, de superposition. Ouais. Comme chez Poulenc, on pourrait faire le rapprochement.
Bah, c'est vrai que là, le fait de les avoir écoutés successivement, je me rends compte qu'en fait, il y a des liens entre les deux, que j'avais pas fait le rapprochement, et c'est marrant comme ça apparaît.
Est-ce que vous avez un rapport ludique de jeu à la musique, vous, Dorothée de Monfray ?
En tout cas, c'est ce que je recherche. Maintenant, moi, j'ai pas un niveau musical suffisant pour avoir cette liberté-là. Surtout que là, je suis débutante en piano, donc je rêve de pouvoir être instinctive et d'y aller comme ça en jouant, mais je rate, donc je n'en suis pas là. Une paysanne, vanne, 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 porte tous ses œufs au marché. Un marchand des coffres, 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 avant de s'y mettre, donnera.
Mon Dieu, c'est la réplique.
Tic, tic, tic.
Zane, 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 porte tout seul.
Un marchand d'étoffes, d'offres, 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 avant du sud.
De la
robinet coule, 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 coule dans un réservoir.
Et puis ça ne, ça ne, ça ne, ça ne saurait pas marcher.
Un extrait de L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. Voir un adulte se tromper dans les chiffres délibérément, c'est jouissif pour un enfant. Vous vous souvenez de comment vous l'écoutiez quand vous étiez petite?
Non, je me souviens pas. Ce serait mentir que de me dire que je me souviens. Par contre, j'ai emmené ma fille le voir sur scène à l'Opéra Garnier il y a quelques années. Et c'était une version avec le corps de ballet, donc grande mise en scène. Et pendant cette chanson, il y avait une classe entière d'enfants à des petits bureaux sur la scène en train de chanter des multiplications fausses. Et là, j'ai vu l'effet que ça lui a fait. C'était incroyable, quoi. À l'opéra, entendre des maths avec des mauvais résultat, c'était génial. Moi, c'est une pièce que j'ai énormément écoutée. C'est un des premiers trucs que ma mère m'a fait entendre. Donc, elle me prenait sur ses genoux. Je sais pas, je devais avoir 2 ans. Et puis, elle me racontait l'histoire en écoutant la musique. Donc, je pense que c'est vraiment, pour moi, le creuset de tout ce que j'ai aimé après, cette pièce.
Entendons la version enregistrée par Laurine Mazel avec Françoise Augéas dans le rôle de l'enfant, aux côtés de Michel Sénéchal et Jeanne Berbier. Dorothée de Monfred, vous aviez un support d'image lorsque vous écoutiez L'enfant et les sortilèges quand vous étiez petite?
Ah, le support d'image, c'était simplement la pochette du disque sur laquelle il y a une illustration. Donc, mais ça me servait à entrer complètement dans la musique, ça suffisait. Et puis il y avait le récit de ma mère aussi.
Et puis, pas toujours besoin d'image?
Non, bien sûr que non, mais de toute façon, c'est des musiques qui créent des images, donc n'y a pas besoin de grand-chose en plus.
Vous avez cherché à l'époque à dessiner des choses ? Ça vous
évoquait ? Je ne crois pas. Mais de toute façon, c'est toujours un peu difficile le rapport entre image et musique. Enfin, je trouve que par exemple dans les concerts dessinés ou ce genre de choses, souvent on s'accroche trop à faire quelque chose de très narratif et réaliste, alors que la musique, elle s'exprime autrement. Et moi, j'aime bien quand c'est un peu abstrait, à vrai dire. Donc non, pas de support d'image. Voilà, j'écoutais l'histoire, qui est une histoire d'un petit garçon qui veut pas travailler, qui se révolte contre sa mère et contre les objets de la maison. Tous les objets prennent vie et se mettent à chanter. Et c'était quand même assez fascinant, quoi.
Et cette collaboration entre Colette et Maurice Ravel, entre une écrivaine et un compositeur aux personnalités diamétralement opposées, qui je crois s'était rencontrée chez la princesse de Polignac, qui aimait comme ça faire des dîners mondains où elle mélangeait la bohème et la bourgeoisie. Mais je crois qu'ils s'étaient retrouvés précisément sur l'enfance, Colette et Ravel.
Je connais pas les détails de leur rencontre, mais je crois que ça a
été... On entend un goût similaire, hein, des obsessions, des émerveillements pour des petites choses.
Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on sent à chaque fois l'attention portée aux détails qui exprime vraiment des choses profondes de l'enfance. Ouais.
Vous rêveriez d'une telle collaboration aujourd'hui ?
Ah mais ça, mais totalement. D'ailleurs, j'ai fait il y a quelques années un livre-disque et c'est vrai que pour moi, le phare, c'est L'enfant est sorti là. J'aimerais bien avoir d'autres projets musicaux comme ça. Ah bah oui, oui, oui.
Il y a bien une bande-son de votre enfance, Dorothée de Monfred. Je crois que ce sont les films de Fellini. Comment vous regardiez ces films quand vous étiez petite ?
Pour commencer, je ne les regardais pas. En fait, j'écoutais surtout tous les disques des musiques de films par Nino Rota, parce que c'était vraiment un goût familial, les films de Fellini. Ça vient de ma grand-mère, qui adorait ça, et elle a transmis ça à mon père, qui m'a fait écouter les disques. Donc pendant des années, en parallèle avec L'enfant et les sortilèges que ma mère me faisait écouter, j'écoutais Nino Rota, et j'ai connu toutes les bandes-sons avant de voir les films, quoi. Donc il a fallu que j'attende plusieurs années, et le jour où j'ai pu voir mon premier Fellini, c'était un grand jour. Et il est possible que ça ait été à Marcorde, d'ailleurs, le premier.
Et ça correspondait à ce que vous aviez imaginé ?
Assez, parce que la musique, elle raconte plein de choses. Elle est dans elle a un côté très très émouvant qu'on retrouve dans ce film-là, en tout cas. Après, c'est peut-être plus, il y a peut-être plus de distance entre la musique et le film avec des films comme Casanova. Mais à Marcorde, ouais, il y a cette espèce de sentimentalité italienne et nostalgique et en même temps baroque qu'on retrouve dans le film.
Oui, parce que ça dit à la fois l'innocence et le fascisme, ouais. L'émerveillement et le sordide. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de l'enfance, ce film-là ? Qu'est-ce que ça dit de votre enfance en parallèle? Est-ce qu'il y a un rapprochement entre l'enfance de Fellini et la vôtre?
Moi, ce que ça me rappelle de mon enfance, c'est ce lien de génération en génération par rapport à ma grand-mère. Et puis aussi, peut-être...
Qu'elle se retrouvait, elle, peut-être?
Alors, je ne sais pas, elle, comment elle vivait les choses, mais...
Elle n'en parlait pas?
De son enfance à elle? Si, si, bien sûr, mais alors elle n'était pas dans l'Italie fasciste quand elle était enfant, donc c'est une histoire qui a absolument rien à voir, mais disons qu'on se retrouvait dans cette vision de l'enfance qui se permet des incursions dans l'imaginaire, le fantasme, la sensibilité, qui n'est pas purement factuelle, quoi, ou qui n'est pas vue seulement par l'autorité des adultes.
C'est ça que se permet Fellini?
Bah, je trouve, ouais. Et c'est quelque chose auquel je suis sensible.
Thank you. Après le quatuor, il est incontestable que parmi mes nombreux violons d'Ingres, ce sont les jeunes qui m'intéressent. Le rôle des aînés, c'est de faire partager l'enthousiasme que nous avons tous pour la musique. Quand des jeunes de 20 ans m'écrivent qu'ils ont découvert la musique grâce à mes orchestres et que désormais ils en feraient toute leur vie, ben je crois que je n'ai pas perdu mon temps. Et il y en a beaucoup. Des lettres en quantité de jeunes qui, vers 12-13 ans, pensaient abandonner. Et abandonner, c'est un échec, c'est triste, n'est-ce pas? Et on le regrette toute sa vie, d'ailleurs. Alors, grâce aux orchestres, ils ont continué. Et maintenant, ils sont très heureux, ils font de la musique toute leur vie.
On entend la voix d'Alfred Löwengut dans une archive, une interview qu'il a donnée à RFI en 1980, et juste auparavant, un extrait du quatuor à cordes de Maurice Ravel en fa majeur, avec précisément le quatuor Löwengut. Vous avez fait partie de ces orchestres, Dorothée
oui.
Monfred.
Mais oui, j'ai fait partie d'un orchestre Löwengut qui était dirigé par Olivier Burgot. Et c'était très chouette, j'ai fait ça pendant plusieurs années, je jouais du violon. J'étais dans un premier orchestre avant où j'étais premier violon, et puis après j'étais rétrogradée en deuxième violon, mais je rigolais plus. J'ai fait ça jusque vers 13-14 ans, et après, j'ai le regret de dire qu'il y a eu une audition pour changer d'orchestre, j'ai pas été prise, et je me suis sentie tellement humiliée que j'ai arrêté la musique pendant 20 ans, comme quoi. Mais c'était pas perdu, parce que j'en avais quand même fait beaucoup avant, par les orchestres et autres, et j'ai repris avec grand bonheur.
Donc ce qu'il dit vous parle?
Bah voilà, j'ai cru que c'était fini, mais c'était pas du tout fini. Donc voilà.
Donc ça, ce n'est pas un échec.
Finalement, c'est pas un échec.
Dans quel environnement musical avez-vous grandi précisément, Dorothée de Monfred?
Alors moi, j'ai une mère qui, quand j'étais toute petite, faisait beaucoup de chant, notamment du chant baroque. Enfin, c'était l'époque du renouveau du baroque avec la tendance William Christie, tout ça. Donc comme j'étais son premier enfant, elle pouvait encore m'emmener partout et j'ai beaucoup suivi dans les répétitions, concerts, etc. J'ai des souvenirs de coulisses et de choses comme ça, assez chouettes. Et j'ai surtout le souvenir de pouvoir être très libre dans les concerts, parce que je me baladais partout, et donc c'était pas quelque chose de formel pour moi.
Mais vous étiez attentive à ce qui se passait
Oui, et puis comme sont les enfants, c'est-à-dire qu'on est à la fois attentive tout en faisant autre chose, donc ça me donnait une certaine liberté par rapport à ça.
Et c'est votre mère qui vous avait mise au violon, qui projetait des choses
Alors,
sur
je
vous.
Sais pas. Elle m'a toujours dit que c'est moi qui avais demandé, ce qui est fort possible, mais j'avoue que je me souviens pas. Et il y a eu ce moment après où moi j'ai arrêté, j'en avais un peu marre du violon. Mais quand j'ai repris la musique 20 ans après avoir arrêté, j'ai repris avec le ukulélé qui a quand même la même taille et le même nombre de cordes. Donc, il y a quelque chose.
Mais qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces années d'orchestre?
Oh, bah, le plaisir d'être avec d'autres et de faire quelque chose ensemble, qui nous dépasse, quoi. Et puis, les concerts et, on avait fait une ou deux tournées. Ça, c'était assez marquant. Je me souviens d'une tournée en Hollande, à Rotterdam. C'était chouette.
Est-ce que vous avez joué les tableaux d'une exposition?
Non, je crois pas. Je crois pas.
Thank you.
Du jardin des Tuileries jusqu'au ballet des Poussins dans leur coque, quelques extraits des tableaux d'une exposition de Moussorgski. Ici la version enregistrée par Evgeny Svetlanov à la tête de l'Orchestre Symphonique Académique de l'URSS.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
L'autrice et dessinatrice Dorothée de Monfred est dans les studios de France Musique ce matin. Vous connaissez cette musique non pas de l'enfance, mais d'un peu plus tard. C'est ça que vous étiez en train de m'expliquer, Dorothée?
Oui. Peut-être que je l'ai entendue à la radio, que ça m'a plu, puis que j'ai continué à l'écouter de temps en temps, avec plaisir.
Comment est-ce que vous découvrez des musiques? Vous êtes curieuse de quelle façon?
Alors, j'écoute beaucoup France Musique et j'écoute beaucoup surtout les replays thématiques de France Musique. J'aime bien parce que je suis pas toujours en phase avec ce qui passe en direct. Enfin, ça dépend des horaires et voilà. Donc, quand ça ne me plaît plus, tac, je zappe sur concerts ou musique de films.
Et vous vous attachez à des musiques en fonction de ce que vous dessinez, en fonction de l'humeur du moment, ou vous faites pas le rapprochement?
Alors, ça dépend énormément de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que je peux écouter de la musique avec plaisir quand je dessine après avoir fait déjà des esquisses. Enfin, c'est-à-dire quand je sais où je vais, là, je peux écouter de la musique. Je peux pas écouter de musique quand j'écris, pas du tout. Et un peu plus difficilement quand je dessine des esquisses, parce que là, j'ai besoin de la totalité de mon cerveau, quoi. Parce que sinon, je me mets trop à écouter de la musique et puis j'oublie de réfléchir.
Est-ce que dans votre parcours, dans votre façon de découvrir votre don pour le dessin, votre envie d'écrire, est-ce que vous l'avez associé à un moment donné à d'autres arts, ou par exemple la musique?
Alors oui, énormément. Je pense que j'ai une imagination d'abord visuelle, mais visuelle et spatiale, et donc la musique a un côté spatial aussi, je trouve. Et pour moi, c'est une question de rapport au temps. Alors là, je vais rentrer dans mes grandes théories. Il y a quelque chose qui a vraiment concrétisé ce rapport pour moi, c'est quand je me suis mise à faire du ukulélé. J'ai participé beaucoup à des scènes ouvertes dans un bar, parce qu'il y avait des soirées ukulélé. Et donc là, je chantais des chansons devant des gens. Et quand vous chantez des chansons dans un bar, vous pouvez pas ni gommer, ni mettre du Tippex sur ce que vous venez de faire. Donc il y a un rapport au présent qui est très différent de ce qu'on connaît quand on fait des livres, parce que on est toujours dans un temps différé quand on fait des livres. C'est-à-dire que le temps de l'écriture, c'est pas le temps de la réalisation des dessins, et c'est encore moins le temps de la lecture. La musique m'apprend le présent, en fait, et c'est quelque chose que j'essaie toujours plus de vivre dans le dessin aussi, parce que je trouve qu'on s'améliore.
Alors, vous m'avez proposé qu'on entende ensemble un extrait des programmes pour enfants de Leonard Bernstein, les Young People's Concerts. Nous sommes en novembre 1966. Le chef d'orchestre a cette façon d'ouvrir très très large, hein, et de repousser les murs des salles de concert. Il explique ici que le mode mixolydien, ce mode où la septième note de la gamme est diminuée par rapport à une gamme habituelle, mode que l'on retrouve dans la musique médiévale, notamment dans le chant grégorien, et aussi dans la musique des années 1960, on écoute Lenny Bernstein.
Now this one is called Don't Panic. This one is called the Mixolydian Mode. And despite its tongue-twisting name, it's one of the most appealing and popular modes of all. Again, like its neighbor, the Lydian, it's a major mode, as you can hear. And also like the Lydian, it has one peculiar note in it. Only this time, it's a different peculiar note. See if you can tell which it is. Here is a normal G major scale. Now here's the Mixolydian scale, and perhaps you care to clap again when you hear the one odd note. Very fine. It's the seventh tone.
the leading tone, which is half a tone lower than the normal, for which you will not clap, right? No. This is the normal one, which is higher. This is the abnormal one, right. Now, this is the only major mode that has a lowered seventh tone, or lowered leading tone. And believe it or not, most of the jazz and Afro-Cuban music and rock and roll tunes we hear owe their very existence to this old Mixolydian mode, like this Cuban riff. That's just Mixolydian. Now, do you hear how that lowered seventh note makes that jazz sound? Of course, the examples I could give you are endless, but just to take a recent smash hit. My baby does the hanky-panky. Mixolydian. Could you believe it? Or do you remember a really terrific song, a barbaric number of a few years ago, sung by a group known as the Kinks? It's called You Really Got Me. Girl, you really got me going. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really, no, no, no. That's all Mixolydian.
Entendre Leonard Bernstein chanter les Kinks, c'est quand même quelque chose.
C'est totalement jouissif et drôle, quoi.
Enfant, on vous a permis d'avoir ce rapport un peu décomplexé et savant à la fois à la musique. Votre mère, qui était dans le baroque, elle vous permettait ça?
C'est-à-dire que moi, j'avais mes deux parents qui écoutaient pas la même chose. C'est plutôt moi qui ai fait une sorte de synthèse, je pense.
Votre père écoutait ça?
Mon père écoutait Nino Rota, les Beatles, Pink Floyd et Julien Clerc. Voilà. Et ma mère plutôt baroque et classique. Donc j'ai eu toutes ces influences et j'ai fait mon mélange, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que quand j'entends Leonard Bernstein qui met aucune frontière entre les genres et qui se sert des Kinks pour expliquer les modes, je trouve ça vraiment totalement réjouissant, quoi.
Vous avez vu ces vidéos, parce que ce sont des archives qui traînent sur YouTube, des Young People's Concerts, vous allez piocher dedans parfois?
Ouais, de temps en temps je vais voir parce que je trouve ça toujours très très agréable à voir et amusant. Ouais.
Alors en termes de mélange décomplexé chez Bernstein, il y a notamment cette immense composition Mass.
Thank you.
Vous nous avez concocté une playlist pleine d'espièglerie ce matin, Dorothée de Montfred, avec cette messe de Leonard Bernstein, ici celle donnée à la Philharmonie en 2018, avec le chœur de l'Orchestre de Paris, le chœur Aedes, dirigé par Lionel Sow et Mathieu Romano. Tout ce beau monde sous la direction de Wayne Marshall, vous étiez dans le public, je crois,
mais oui,
Dorothée de Montfred.
J'ai eu la chance d'assister à la générale parce que ma sœur chantait dans le chœur de l'Orchestre de Paris.
Donc votre sœur chante comme votre mère.
Et oui.
Ouais, à la suite.
Oui. Ouais, oui.
Et vous, vous ne chantez pas?
Alors j'ai chanté un petit peu quand je faisais du ukulélé, mais pas dans le même style.
Et là, on entend combien Bernstein s'est amusé à intégrer de la musique de cirque dans cette messe. On est plus proche ici de Nino Rota.
Bah, on est à la fois proche de Nino. Ouais, on est proche de tout en fait. C'est ça qui est dément, parce qu'on a un chœur classique, un groupe de rock, deux orgues, un orchestre, un jeune soliste. Enfin, c'est complètement dément. On entend même des kazoos à un moment donné. Les paroles, à un moment, c'est Alléluia. Enfin, ils se permettent tout. Et cette œuvre, elle est géniale parce que c'est une œuvre où la dialectique est intégrée au récit. C'est-à-dire que c'est une messe, mais en même temps, il y a les contradicteurs de la messe. Et en fait, on est en pleine époque de la guerre au Vietnam, et en fait c'est un peu le même propos que dans Hair, c'est-à-dire qu'il y a les contradicteurs qui veulent pas aller à la guerre et tout ça, et il y a vraiment l'opposition qui tisse en fait le récit de l'œuvre, et ça s'entend, et donc il raconte ça non seulement avec les paroles mais aussi avec les styles qu'il intègre dans son œuvre. C'est pour ça qu'on a de la musique de cirque, du très très classique, du récitatif, enfin voilà, ça ressemble à rien d'autre.
Et vous, Dorothée de Montfred, qui est attentive à l'enfance qui se niche partout, même dans notre monde d'adulte, il est présent là,
bah, totalement.
Dans cette messe.
Bah, de toute façon, on a entendu tout à l'heure l'extrait avec Leonard Bernstein qui chante. Lui, il est très proche de son enfance, et c'est ça qui lui donne cette liberté-là. Je crois qu'il s'est fait beaucoup attaquer quand il a créé cette œuvre qui a été faite pour l'inauguration du Kennedy Center, et c'était en pleine époque de décaphonique, donc c'était pas du tout dans les codes de l'époque, et il s'est fait bien allumer, je crois. Moi, je trouve que ça reste vraiment une œuvre extraordinaire, quoi, qui fait date.
Only the three of us. We are. comes company. No strings, good times, room hums company. Late nights, quick bites, party games, deep talks, long walks, telephone calls. Thoughts shared, souls bared, private names, all those photos up on the walls. With love, with love, filling the days. With love, 70 ways, kabobby with love. My friends, those good and crazy people, my married friends, and that's what it's all about, isn't it? That's what it's really about.
Name it Sarah.
Listen, pal, I'd like your opinion.
Try me, Peter.
Bobby, I need your advice.
Can I call you back tomorrow?
If you visit the cave once or twice.
Ginny, I could take them to the
zoo. Bobby,
little, where have you been?
En écho à Mass de Bernstein et ici Company de Stephen Sondheim, une façon de lui rendre hommage, lui qui nous a quittés le 26 novembre dernier. C'est une comédie musicale que vous avez vue il n'y a pas longtemps.
Alors oui, figurez-vous que j'ai découvert l'existence de cette comédie musicale il n'y a pas si longtemps. J'avais dû en entendre parler à la radio. Je me suis mise à l'écouter sur Spotify, YouTube, parce qu'il y a des super enregistrements qu'on peut trouver. Et pendant le confinement, j'étais tellement déprimée. Je rêvais que d'une chose. En fait, c'était tout ce qu'on pouvait pas faire, c'est-à-dire voir des gens, aller à un concert, danser, etc. Et pour moi, ce qui représentait cette envie-là, c'était Company. C'était le truc que je désirais le plus, en fait. Sortir du Covid et aller voir Company. Sauf que c'est une pièce qui n'avait jamais été donnée en France. Et là, il se trouve qu'en septembre, ma fille me dit « Mais regarde, Compagnie passe dans 2 jours dans notre quartier. » Et en fait, c'est une jeune compagnie qui s'appelle Side by Side. By Side qui a été créée par des anciens de Sotto Voce, qui a monté ça. Je l'ai su 2 jours avant, j'ai pris des places et on a pu aller voir ce spectacle. Et c'était fantastique, vraiment génial. C'est une comédie musicale, en fait, qui est la première concept. qui date des années 70, je crois 1970 d'ailleurs, et ça raconte en fait comment un gars qui s'appelle Bobby va à des soirées chez des amis à lui qui sont tous en couple, et ses amis lui parlent du mariage, essayent de le convaincre de se marier. Et en fait, c'est pas vraiment chronologique. On assiste à plusieurs soirées comme ça, et c'est un peu cubiste. C'est comme une espèce de mosaïque qui fait le tour de la notion de mariage. Et c'est extrêmement drôle.
Vous vous attachez quand même, Dorothée de Monfred, à des musiques ou des périodes qui se rapportent à chaque fois au début des années 70. C'est le moment, je crois, de votre toute petite enfance. Et on se rapproche plus de là de Nino Rota que du chant baroque, quoique on est en plein début du renouveau baroque. Je ne sais pas si vous faites le lien entre tout ça.
Je ne l'avais pas fait jusqu'à aujourd'hui, mais là, c'est vrai que vous me le faites remarquer, c'est très juste. Après, moi, j'avais l'impression que j'avais une prédilection, en tout cas en pop, pour les musiques de 1967, mais on n'en est pas très loin.
Mais ce sont des musiques que vous redécouvrez aujourd'hui, ou vous découvrez tout court.
Compagnie, j'ai vraiment découvert il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai vraiment dû découvrir, je ne sais pas, il y a 3 ans, et je me suis émise à écouter ça en boucle. J'ai beaucoup regardé une version enregistrée qu'on trouve sur YouTube, qui est absolument géniale, parce qu'en plus, les chanteurs comédiens jouent des instruments en même temps. Donc c'est complètement dingue, la scéno est incroyable. Je l'ai vraiment connue récemment, ouais, et c'est devenu très important pour moi.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces années ? Croyez-vous qu'il y a une question de couleur, d'énergie ?
Il y a une énergie, ça c'est sûr. Il y a une ouverture, je pense. Un mélange des genres, peut-être. Et puis une espèce de liberté d'exploration des genres. Comme si tout s'ouvrait, quoi.
Que vous recherchez parfois aussi ?
Je recherche, je ne suis pas sûre de trouver.
Mais oui.
Je cherche ça dans mon travail. Bah, moi, j'aime bien mélanger les genres. Ouais, je trouve que c'est toujours intéressant d'être un peu hybride.
Qu'est-ce que ça veut dire être hybride pour les enfants, par exemple ?
C'est-à-dire ne pas être référencé que dans les choses qui existent déjà dans un genre. C'est-à-dire que si je fais un livre pour enfants, je ne vais pas m'inspirer de livres pour enfants. Ce qui me plaît, c'est de partir peut-être de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'univers dans lequel je travaille pour faire un nouveau projet. C'est-à-dire que Compagnie pourrait m'inspirer un livre pour enfants, aussi bien qu'un livre pour enfants pourrait m'inspirer un truc pour adultes. J'aime bien que ça se mélange et que ça s'hybride.
Thank you.
Le prélude à l'après-midi d'un faune, enregistré par Philippe Jordan à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Car non seulement vous allez voir des comédies musicales Dorothée de Monfred, mais aussi des concerts et des ballets. Vous avez vu la production donnée par Nicolas Le Riche.
Oui,
en faune.
Oui. Et alors, c'était très marquant parce que cette chorégraphie de Nijinsky, elle arrive, je trouve, à transformer le corps des danseurs. On a l'impression de voir réellement des faunes avec des jambes de chèvre, quoi. Et maintenant, je peux plus écouter ce morceau sans voir ces personnages mythiques se promener sur scène.
Il y a beaucoup de personnages animaliers, d'ailleurs.
Dans
vos dessins.
Oui, c'est vrai. J'aime bien ça parce que ça me permet de prendre une certaine distance avec la réalité et puis ça permet d'exprimer des choses de façon plus directe grâce au corps des personnages, quoi, de s'éloigner d'une certaine norme pour raconter les choses de manière un peu plus imagée.
Vous cherchez aussi peut-être des choses animales un peu bestiales dans certains comportements humains aussi parce que c'est frappant dans Les Petits Philosophes par exemple que vous avez beaucoup dessiné, souvent le loup assez pulsionnel, le chat est plus flegmatique, vous recherchez ces caractérisations aussi.
Oui, c'est toujours très amusant. D'ailleurs, dans un de mes livres qui s'appelle Ada et Rosie, où je raconte ma vie de famille, j'ai dessiné des personnages sous forme de cochons, ce qui me permet d'avoir quand même de la distance par rapport à la réalité de ma famille et de mettre en avant, oui, ce côté un peu animal. Et ça vient en fait du moment de la naissance de ma plus jeune fille où j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un porcelet qui arrivait. Donc j'ai gardé ça et ça me permet d'exprimer cette part animale et de pas être que dans le cérébral.
Oui, ce que permet aussi la danse.
Bah oui, absolument. Mais ce que permet la musique en général, donc la danse, c'est faire de la musique avec son corps. Mais même quand on joue d'un instrument, le corps est vraiment en jeu. Et ça fait travailler le cerveau d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans le pur cérébral intellectuel, quoi. Il y a l'instinct qui entre aussi en jeu. Et j'aime bien me servir de ça.
Parce que vous avez quand même l'impression de faire un travail cérébral. Lorsque
c'est
vous dessinez, vous écrivez,
c'est toujours un aller-retour en fait entre l'instinctif et le cérébral. Je dirais que évidemment le scénario est plus cérébral parce qu'on construit, c'est quelque chose de plus pensé, de plus calculé. Mais il y a un moment où il faut, comme je parlais tout à l'heure du rapport au temps et du présent, j'essaye de retrouver le présent, l'instinct et le corps en fait. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on atteint ça une fois qu'on a beaucoup travaillé le cérébral et qu'on peut oublier toute la technique. C'est comme en musique, hein. C'est vraiment ça.
Thank you.
Le rapport au corps, nous y voilà. Dorothée de Montfred, avec cette quatrième gnossienne de Satie, jouée par Alexandre Tarot, que vous avez dessinée, je crois.
Ah oui, parce qu'il y a des années, Alexandre Tarot avait fait une nuit Satie au musée d'Orsay. Et j'étais allée à ce concert et j'avais amené un carnet de croquis. Et je l'avais beaucoup dessiné. Je me souviens, il avait un chapeau et tout. Il était un peu costumé en Eric Satie. Donc c'est resté assez lié pour moi, Tarot avec Satie.
Et ça vous arrive souvent de croquer des musiciens en récital, en concert?
Alors, je l'ai beaucoup fait à une époque et j'avoue que ces derniers temps, je ne le fais plus assez. Et là, ça me donne envie de recommencer, d'en parler.
Qu'est-ce que ça permet d'écouter autrement?
Ah bah oui, ça active la mémoire beaucoup. C'est-à-dire, ce qu'on a dessiné, on n'oublie plus jamais. Voilà, là, ce concert, je m'en souviendrai toujours. Et puis, on rentre, dans une espèce de profondeur secrète des choses, je trouve. Même si on dessine des choses rapides et sans faire de détails, mais ça oblige à être très, très concentré sur un certain type d'observation. Et voilà, on a tous les pores du cerveau et de la peau ouverts, prêts à capter tout ce qu'on peut.
Est-ce que le fait aussi d'avoir les mains occupées, peut-être?
Alors ça, je ne sais pas, peut-être.
Ça nous fait écouter autrement?
Possible. Mais alors là, ce morceau, vous l'avez bien choisi, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le morceau que je suis en train d'essayer de travailler au piano, et c'est un enfer, j'y arrive pas du tout. Un jour, j'ai entendu une interview d'Alexandre Tarot qui disait « Oui, ce morceau de Satie qui ne présente aucune difficulté, bah, il m'a énormément vexée, parce que moi, je rame. » Mais en tout cas, c'est très agréable à travailler.
Donc, vous jouez du piano classique, ce type de répertoire Satie. Est-ce que vous jouez aussi du jazz?
Alors, je joue pas de jazz parce que j'ai une prof qui est plutôt classique. Elle a bien repéré que j'aimais beaucoup la musique du XXe siècle. Donc, elle me propose des Satie, Bartok. Là, j'ai un morceau de Debussy aussi. Donc, je trouve ça très difficile, mais c'est génial. Et puis, j'ai vraiment une prof qui est absolument formidable. Donc, je travaille dans le sens qu'elle m'indique parce que c'est toujours bien vu. Le jazz, on verra peut-être quand je serai un petit peu plus à l'aise.
Savoir jouer comme Thelonious Monk avec ce jeu dont on parle depuis le début de cette émission.
Ah, mais c'est le rêve, il a l'air tellement détendu, on a l'impression qu'il est en train d'inventer ce qu'il joue, quoi. C'est vraiment
un
formidable.
Peu.
Bah, un peu, oui. C'est ça le talent et le travail.
Le jazz, vous vous êtes mis à écouter ce répertoire-là dans quelles circonstances?
Alors assez tard, j'ai un ami clarinettiste qui s'appelle Thomas Savy qui m'a fait écouter pas mal de choses depuis l'adolescence. Donc grâce à lui, je suis aussi allée voir des concerts, ce qui m'a permis d'apprécier la musique différemment de ce que j'aurais pu le faire avec seulement les disques. Et donc j'aime beaucoup ça maintenant, vraiment beaucoup. Et Monk est un incontournable. Je crois que j'écoute beaucoup Monk et Billie Holiday.
Vous ouais. arrivez à cerner pourquoi?
Je sais pas trop. C'est vrai que je suis pas très férue des chanteuses de jazz, mais sauf Billie Holiday. Je sais pas pourquoi. Monk, j'aime bien son côté héritage classique. C'est-à-dire que c'est toujours mélodique, même si on connaît peu le jazz, on s'y retrouve. Et puis il y a une très grande liberté, quoi. Donc c'est séduisant.
La liberté ouais. Qui
très
guide.
Très détendu, ouais. Très libre. Voilà, avec de l'humour aussi, je trouve, dans le jeu.
Vous jouez à la fois du piano et du ukulélé.
Je fais plus beaucoup d'ukulélé maintenant, mais voilà, le piano occupe mes soirées en ce moment.
Ah, vous en avez quand même joué assez pour enregistrer ouais. aux côtés de Tony Truant. Vous pouvez nous raconter un peu cette expérience avant qu'on l'écoute?
C'est une histoire incroyable. J'ai joué du ukulélé à partir de 2008. Je cherchais un prof et une amie m'a mis en contact avec Tony Truant, qui est le guitariste des Vampas et qui donnait des cours de ukulélé. Et quelques temps après, j'ai écrit en fait une espèce de comédie musicale rock. Et je l'ai proposé à Tony. Je pensais qu'il allait partir avec mes textes pour aller enregistrer ça tout seul. Mais non, il m'a proposé de jouer avec lui et avec d'autres amis sur le disque. On a fait ça ensemble. Et donc, on a fait tout un livre-disque qui raconte l'histoire d'un petit chien bichon qui veut devenir sauvage et qui rencontre un chat de gouttière, un mauvais garçon.
La terreur du quartier. J'ai beau être mon ami, si tu n'as pas envie de finir en bouillie, toi mon petit chéri. Super sauvage, je suis super sauvage. Super sauvage, carrément super sauvage. Super sauvage, je suis super sauvage. Super sauvage. Je ne suis pas né dans la rue, j'habite loin d'ici, dans un petit bled perdu, un coin vraiment pourri. J'étais beau, j'étais craint, mais je ne suis pas resté. Tu vois, je me suis barré, je suis un émigré. Super sauvage, je suis super sauvage. Super sauvage, carrément super sauvage. Super sauvage, vraiment super sauvage. Super sauvage. Chasseur de caribou, rapide comme un guépard. Laisse-moi, petit bichon, faire ton éducation. Ici, on ne s'ennuie pas, ici, je suis le roi. Super sauvage, je suis super sauvage. Super sauvage, carrément super sauvage. Super sauvage, je suis super sauvage. Super sauvage. Super sauvage.
Alors on entend un extrait de ce disque que vous avez enregistré avec Tony Truant et on vous entend à la guimbarde.
Alors là, sur ce titre, oui, on m'entend à la guimbarde. Je joue aussi du ukulélé et il y a certaines chansons sur lesquelles je chante.
Et vous l'avez enregistré
Alors c'était une expérience incroyable parce qu'on a enregistré vraiment à l'ancienne dans un studio à Montreuil qui s'appelle le studio Snark, qui était le studio où on enregistrait les VRP, parce que c'était un studio où ils ont l'habitude d'enregistrer de la contrebassine, cet instrument fabriqué maison qui remplace la contrebasse. Donc on est allés tous ensemble dans ce tout petit studio et on a enregistré tous les instruments ensemble, quoi, ce qui se fait plus tellement aujourd'hui. Et je pense que ça s'entend parce qu'il y a une espèce de plaisir d'être ensemble, une intensité intensité de concentration qui était chouette, quoi.
Merci beaucoup, Dorothée de Montfred.
Merci à vous, Priscille.
Cet alliage de musique qui m'a soufflé un peu de légèreté, de générosité en ce lendemain de Noël. On en a bien besoin. Passez de belles fêtes encore, merci. Dorothée de Montfred. Merci à toute l'équipe qui a contribué à ce Musique et moi. Élise Le à la technique, Marie Grou à la réalisation, Nelly Portel et Marie Ferdinand, attachées de production. À la semaine prochaine pour un nouveau Musique et moi, enfin en 2022.
À réécouter sur francemusique.fr.